With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. On parle de films, de séries, de livres, de comics, de musique, de jeux vidéo et de plein d'autres choses vraiment sympas. Et aujourd'hui, on va vous recommander trois trucs cool qui vont, je l'espère, vous aider à passer soit par exemple un week-end égayé si c'est pluvieux chez vous et que vous savez pas trop quoi faire, soit n'importe quel autre moment. C'est l'avantage de Positron, vous pouvez vous en servir à n'importe quel moment, peut-être que même dans plusieurs années, quelqu'un est revenu écouter ces vieux épisodes de Positron où on parlait de trucs hyper anciens et qu'ils vont découvrir des trucs archéologiques incroyables. Donc salut à vous, positronneurs du futur. Moi, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on lance une nouvelle session après un petit peu d'absence. On lance une nouvelle session de 4 épisodes avec 2 invités absolument formidables qui vont faire complètement oublier les invités d'avant qui, très franchement, si on parle sincèrement, était généralement assez médiocre, mais il y en avait quand même un qui a brillé parmi ses anciens invités, un seul, une étoile, un diamant unique, et que j'ai donc invité à revenir dans l'émission, qui m'a fait l'immense honneur d'accepter, c'est Timothée Graveline de l'écurie Geek Inc. Comment ça va, Timo?
Ça va, aucune pression, tout va bien.
Non, mais pour toi, enfin, toi, t'étais un positronneur naturel. Je veux dire, t'as fait une prestation tellement incroyable. C'est ça. je n'ai aucun doute sur la qualité de ta performance. Et un autre invité qui se joint à nous, qui vient d'une autre écurie, de l'écurie des Slackers, et que ça me fait, que ça me fait un immense plaisir de recevoir, c'est Thomas. Comment ça va, Thomas?
Eh, ça va super bien. Bonjour à tous.
Tu es en forme, tu es prêt à positronner comme un fou. Je sais plus si on a le droit de dire ton nom de famille publiquement, je crois que oui.
Hein. Oui.
Oui, c'est Thomas Barthes, voilà.
J'ai pas de problème avec ça, quoi.
Très bien. Donc, merci d'être avec nous, j'espère que tu vas avoir des trucs intéressants à... là, pour le coup, Timo, il a pas trop la pression, mais toi, t'as la pression, parce que tu dois briller comme lui a brillé il y a quelques
un
mois.
Un petit dépucelage.
Oulala.
J'aurais tendance à dire plutôt un bizutage, mais...
Mon Dieu.
Oui, non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Assieds-toi là, on va commencer moi et Timo, et puis tu n'auras qu'à enchaîner à la suite.
Ça marche.
Bon, bah écoutez, moi je vais vous parler donc d'un jeu que la plupart d'entre vous connaîtront, je pense, ce jeu vidéo. Et certains d'entre vous n'ont peut-être pas vraiment essayé, parce que vous vous dites que c'est un jeu qui est à réserver aux joueurs un petit peu assidus. Ce jeu, c'est Diablo 3, donc un jeu de mon ancien employeur, de Blizzard. Et c'est un jeu qui est très connu parce que la série Diablo est très connue. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que récemment, j'ai eu des moments un petit peu difficiles et je cherchais un truc à faire pour me vider l'esprit et pour un petit peu penser à d'autres choses, juste faire une activité qui m'occupe les mains et la tête, mais qui me demande pas de trop réfléchir. Eh ben, Diablo, j'y ai beaucoup joué pendant des années. Il est sorti en 2012, je crois. Et donc j'y ai joué des centaines d'heures déjà. Et là, j'ai redécouvert le plaisir absent de Diablo 3, qui est vraiment une sorte de mécanique qui le plaisir vient en fait du fait de se perdre complètement dans le jeu. Il y a des jeux comme ça où on ne réfléchit plus trop et on est immergé dans une mécanique répétitive qui nous emporte complètement. Et Diablo 3 fait partie de ces jeux-là. Alors, pour expliquer le principe du jeu, beaucoup d'entre vous connaîtront Diablo. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de Gauntlet, un très vieux jeu d'arcade. Là, je me retourne vers mes co-animateurs et je me dis qu'ils sont peut-être un petit peu trop jeunes.
Gauntlet, ça remonte un peu trop loin pour moi.
Ouais, bon, bah voilà, c'était dans les années 80, je crois, Gauntlet. Mais en gros, on choisit son rôle, on choisit un personnage parmi différentes classes, et alors que ça soit barbare, sorcier, féticheur, croisé, etc. Et on va devoir évoluer dans des environnements en vue isométrique, donc en vue subjective, de haut, de 3K en fait, et il va y avoir plein de démons qui vont s'approcher. Alors on va être dans des extérieurs, dans des donjons, dans des en enfer, on va aller au paradis, enfin il y a plein de d'environnements différents, et il y a systématiquement des démons qui vont venir nous attaquer, et on a 4-5 capacités différentes qu'on peut régler, qu'on peut choisir et régler avec des runes qui vont changer un petit peu les capacités. Et on va devoir tuer tous ces démons. Et vraiment, à la base du jeu, c'est ça. C'est du massacre de démons en série. Et au début, ça commence, on est... on en tue quelques-uns. Et puis très très vite, on va finir par s'enchaîner des dizaines et des dizaines et des centaines de démons en quelques minutes. Et le génie de Diablo, c'est que ça réussit à rendre cette mécanique de surpuissance possible d'une part, et puis agréable dans toutes les configurations. Parce que quel que soit le personnage qu'on va jouer et quel que soit le style de jeu qu'on va adopter en choisissant ses différentes capacités, on va toujours prendre un plaisir particulier et immense à enchaîner les explosions de démons. Alors on va les découper en morceaux, les faire exploser, les massacrer avec des lasers. Mais systématiquement, on prend un plaisir vicieux à faire tous ces trucs et à les voir exploser. Et bien sûr, il y a l'autre partie qui est qu'ils vont lâcher des objets d'équipement et qu'on va essayer d'avoir de plus en plus d'équipements de meilleure qualité. Mais à vrai dire, même à la base, le vrai plaisir viscéral qu'on prend à ce jeu, c'est l'idée de donc faire exploser tous ces démons en série. Et la réussite pour moi est totale, et c'est une réussite que j'ai redécouvert maintenant il y a quelques semaines, même si, comme je le disais, j'y ai joué pendant des centaines d'heures, et il est toujours intact, ce plaisir. Donc, je dirais que... Alors, petite note quand même, il y a le jeu de base, qui est Diablo 3, qui avait été lancé avec quelques soucis techniques et de design de gameplay, même si moi je l'appréciais beaucoup, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de design. Ils ont été largement corrigés dans l'extension qui s'appelle Reaper of Souls et qui a continué à évoluer depuis maintenant, je sais plus, 2 ou 3 ans depuis la sortie, ça a continué à évoluer, à s'améliorer. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut a priori, pour vraiment apprécier le jeu, s'acheter l'édition normale et l'extension qui sont maintenant vendues en pack pour pas trop trop cher et qui sont disponibles sur PC, Mac, et toutes les consoles, enfin toutes les consoles, Xbox et PlayStation. Donc, et vraiment, ça marche aussi bien sur toutes les plateformes et le plaisir est intact sur toutes les plateformes. Donc voilà, c'est un jeu que certains d'entre vous pourraient se dire bah c'est pas forcément pour moi, mais ça commence très lentement et puis on s'habitue à ce truc là et franchement au bout du compte, au bout de on va dire une dizaine d'heures, même pas, on arrive à un niveau de puissance qui est tellement fou, qui vous procure un plaisir un plaisir vidéoludique assez pur. Je sais plus si j'avais fait cette comparaison, mais c'est un petit peu le même plaisir que dans Doom, où là aussi on explose des tonnes de démons, mais à ce moment en FPS. Et c'est le même type de plaisir vidéoludique. Et vraiment, je le recommande à n'importe qui. N'importe quel joueur de jeux vidéo peut apprécier, je pense, ce plaisir de Diablo, qui est assez unique en plus. Enfin, il y a d'autres jeux de ce type-là, mais je trouve que la réussite de Diablo est vraiment particulière. Donc voilà pour ma recommandation vidéoludique, c'est Diablo 3. J'imagine que vous avez peut-être essayé Diablo 3 tous les deux.
Bah moi j'y ai joué une bonne trentaine d'heures, donc c'est moins que toi, mais j'avais pris un chasseur de démons.
Ouais.
Et pareil, j'avais bien kiffé. C'est vrai que le côté surenchère d'explosion et de surpuissance que tu peux avoir, un côté défouloir de genre tous les trucs que tu gardes de la vie réelle, tu les injectes dedans et tu dis tiens, prends ça, va mourir. C'est vrai que c'est un bon côté jouissif. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'aurais dû enregistrer ce positron une semaine avant parce que j'avais des potes ce week-end et on voulait absolument se faire Diablo 3 en local il nous fallait deux manettes de PlayStation en plus. Et Audrey a milité en disant non, on n'achètera pas deux manettes de plus pour jouer à Diablo comme des cons en local.
Mais quelle erreur!
Avec ton argument, j'aurais pu y jouer tout le week-end, quoi. À 4 en local, quoi. C'est bon. Le partage, le multijoueur en local sur un écran pas splitté et tout fonctionne super bien sur Diablo 3.
Sur console, ouais. Sur console, ouais. C'est possible, effectivement.
Oui, sur console, oui.
Et ça fonctionne très bien.
J'avais pas testé sur PS4, mais pareil, j'ai toujours voulu faire ça, une bonne soirée à 4. À 4 sur PlayStation, sur Diablo, ça. Parce que pareil, moi j'y ai joué, alors peut-être 300 heures ou plus, j'arrêtais de compter, enfin c'est pareil, je me suis fondu dedans. Et mais comme je supporte ce que tu dis, Patrick, depuis les derniers patchs, ça fait maintenant trois ans, oui, qu'ils améliorent le jeu à chaque fois et ça devient vraiment, vraiment de plus en plus intéressant. Si au début du jeu, pour ceux qui avaient joué il y a donc 5 ans, il y a à peu près 5 ans, le jeu, il était sorti en mai 2012, c'était frustrant. Y jouer, c'était assez frustrant. Il fallait jouer énormément de temps pour avoir un personnage qui était agréable à jouer et qu'on commence à prendre le plaisir que t'as décrit, celui du massacre tout le monde et tout ça.
Ouais.
Aujourd'hui, comme tu dis, en quelques heures, tu deviens extrêmement puissant et ça devient tout de suite jouissif, pardon. Et non, c'est super. Aujourd'hui, Diablo, c'est un défouloir excellent, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, si vous voulez y revenir, il y a effectivement les saisons qui vous donnent des sets d'armure complets, etc. Enfin, c'est vraiment sympa. Et moi, j'ai remis, là, dans mon nouveau barbare de la saison 10, j'ai remis, je sais pas, peut-être 40 heures en un ou deux mois. C'était un vrai plaisir. C'est un plaisir presque coupable, mais c'est un vrai plaisir. Donc voilà, Diablo 3 à recommander à tout le monde.
Et en dernier, je reviens juste, il est disponible à 30€ sur Battle.net avec le jeu plus son extension. Donc c'est pour le plaisir que ça offre, c'est vraiment bon marché.
Ouais, on est d'accord. Et je suis sûr qu'il se trouve l'édition Ultimate Evil en console. Je suis sûr qu'on le trouve pas très cher aussi. Et le multijoueur, effectivement, que ce soit sur console ou sur PC, mais sur PC c'est pas en local. C'est une des grosses parties du jeu et je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que ça fait partie du truc aussi, quoi. Pas obligatoire du tout, ceci dit, mais bon. Ok, bah voilà donc pour Diablo 3. Timo, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Ben moi, je vais vous parler d'un comics qui est accessible franchement pour tout le monde et c'est une de mes meilleures découvertes depuis au moins un an de grosses lectures. C'est Giant Days. Donc c'est un comics que j'ai découvert lors d'un voyage à Londres. On a fait plusieurs comic shops avec Audrey et on en a visité un où il y avait tous les comics qui étaient sous emballage, impossible de savoir impossible à feuilleter, impossible de savoir ce que ça valait et tout. Et j'en ai vu un qui avait une petite couverture jaune avec une nana toute mignonne dessus, un peu qui a l'air un peu gothique ou un truc du genre. Et je me suis dit bon, allez, c'est marqué Giant Days, je connais absolument pas, je sais pas du tout de quoi ça va parler. Et ben je regrette absolument pas cet achat. C'est franchement, c'est un comics feel good incroyable. Ça va parler de trois copines, donc Suzanne, Esther et Daisy, qui sont étudiantes, elles se connaissent depuis peu, elles sont débarquées à l'université, et elles s'entendent super bien, c'est devenu limite des BFF, quoi. Leur histoire, bah, ça va être tout simple. C'est pas du tout un comics où on va sauver le monde, où il y a un gros, de gros enjeux monstrueux. C'est, on va vivre leur quotidien. Donc, les histoires d'amour, la grippe, la pression du milieu universitaire et tout ça qui va mettre leur amitié à rude épreuve. Ce comics a une particularité, je trouve, c'est qu'il traite de tout, quasiment de tout. Pour moi, ce comics, c'est quasiment la vie, quoi. On va parler de féminisme, de harcèlement de rue, je sais pas si ça se dit réellement, mais de l'objectification de la femme. On va parler d'antibiotiques, d'addiction, on va parler de règles, de la difficulté à faire pousser une moustache, on va parler d'énormes... Enfin, il y a plein de sujets comme ça.
Tu m'as donné deux titres possibles à l'épisode, soit ce comic c'est la vie, soit de la difficulté de faire pousser une moustache. Je crois que les deux c'est parfait.
C'est assez incroyable. L'écriture est hyper intelligente en fait. C'est John Ellison qui est au scénar et c'est un mec qui a fait plusieurs webcomics. Donc ça c'est un spin-off en fait d'un de ses webcomics et dans cette écriture là. Tous les sujets que j'ai évoqués là, en fait, il va pas nous prendre à partie en disant ben voilà, le féminisme, c'est ça, ça doit se passer comme ça, le harcèlement de rue, oulala, c'est pas bien, faut faire ça comme ça. C'est écrit de manière hyper subtile, ça va amener tous les sujets et sans pour autant te faire une grosse leçon de morale derrière. C'est pas le comics des bien-pensants, quoi. On m'a insulté une fois de bien-pensant. C'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de plus, de très large. Tous les sujets un peu touchy comme ça sont amenés de manière assez discrète. Et tu vas avoir assimilé le sujet sans pour autant que les mots aient été placés dessus, quoi. C'est assez, assez subtil et pour moi c'est vraiment une leçon d'écriture qui a été faite. Au niveau du dessin, c'est Lisa Treiman, donc je ne connaissais aucun des deux, artistes, on va dire. Lisa, elle bosse en tant que story artiste chez Disney. Et ce qui lui procure un trait assez dynamique et très expressif. C'est pas le dessin le plus incroyable du monde, mais il s'en dégage très rapidement des émotions, il s'en dégage très rapidement des... Il y a quelque chose qui en ressort qui fait que c'est... On a envie de tourner les pages, tout cet ensemble-là fonctionne super bien, et on a envie de connaître leur vie, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nos trois camarades, parce qu'elles ont toutes vraiment des caractéristiques différentes. Hein. Daisy, c'est la naïve du groupe qui a fait de l'école à domicile pendant toute la vie, donc elle commence à débarquer dans la vie en société, elle n'est absolument pas prête pour ça. Esther, donc la fille qu'il y avait sur la couverture, qui est une sorte de... un peu gothique, elle est hyper charismatique, intéressante, c'est presque une drama queen. Et Suzanne, qui va être plutôt... c'est elle qui narre un peu le comics, c'est celle qui a plus le sens commun, qui nous ressemble le plus, quoi, on va dire. Et c'est... au milieu de ces trois personnes-là, on va vraiment vivre des aventures du quotidien qui finissent par être super intéressantes. Et pour moi, c'est un gros, gros kiff, ce comics.
Écoute, tu m'as donné vachement envie. J'ai l'impression que c'est exactement le genre de comics qui me conviendrait. Donc, je pense que je vais essayer de le trouver quelque part. Mais du coup...
Oui, justement, en parlant de ça, donc moi, j'ai trouvé en VO. Pour une dizaine d'euros et en fait il y a Aquileos, une maison d'édition bordelaise qui le sort le 8 juin donc voilà.
D'accord.
Donc vous pouvez, si l'anglais vous rebute un peu parce qu'il y a quand même des mots assez compliqués, hein, j'ai switché pas mal de fois sur Google Trad pour comprendre certains mots, donc si vous avez un peu peur de la VO, attendez un tout petit peu, il y a la VF qui débarque.
D'accord, super. Donc on rappelle, ça s'appelle Giant Days et c'est un comics qui est recommandé à tout le monde. Merci beaucoup Timo. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai googlé le style graphique et ça aussi ça a l'air de me parler pas mal, donc on est pile dans ce qui me va. Thomas, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors moi, je vais parler d'un film d'animation japonais réalisé par Satoshi Kon. Peut-être certains reconnaîtront. Mm-hmm. Le film s'appelle Millennium Actress. Alors, c'est sorti au début des années 2000. Je crois que la même année que Le Voyage de Chihiro, ça devait être en 2001. L'histoire, brièvement, c'est deux journalistes qui obtiennent une interview d'une ancienne star du cinéma japonais qui s'appelle Chiyoko, qui a un jour pris soudainement sa retraite et est parti vivre paisiblement le reste de sa vie assez isolée du reste du monde. Et à partir de là, elle va étaler toute sa vie et emporter littéralement les deux journalistes et nous d'ailleurs avec elle pour revivre tout ça, avec en fond un fil rouge, on va dire amoureux, mais bon, je vous laisserai découvrir c'est quoi. Même si, je suis pas certain que ça soit un film vraiment spoilable, dans le sens où c'est pas vraiment l'histoire en elle-même le principal intérêt du film, mais ça va être toute la technicité de l'œuvre. Je vais être direct, ce film, pour moi, c'est un réel bijou du cinéma, un bijou de cinéma brut. Je l'ai découvert personnellement sur le tard, il y a quelques mois à peine. Ça devait être en début d'année, alors que, comme je disais tout à l'heure, il a presque 15 ans. Enfin, il a même un peu plus de 15 ans.
Presque 20 ans, quoi. Tu dis, ouais. Quand tu dis c'est un bijou du cinéma, tu veux dire du cinéma tout court ou du cinéma d'animation ?
Non, je pense vraiment que ça va être au niveau de sa mise en scène, en fait. Comment le réalisateur passe d'une scène à une autre, toute l'histoire qu'il raconte, comment c'est ficelé, c'est extrêmement, extrêmement bien fait. En fait, le film, il va mélanger énormément de choses et nous raconter simultanément plusieurs histoires à travers, à la fois des scènes qui vont être interprétées par l'actrice en tant qu'actrice, parce qu'elle, je le rappelle, elle nous raconte sa vie passée. Et donc, ça va être parfois des extraits de films qu'elle a à la tournée, ou alors de sa vie du quotidien qu'elle a vécu. On va retracer toute l'histoire, donc sa biographie à elle, sa vie, l'histoire du Japon. On va voyager à travers le Japon féodal ou le Japon autour de la Seconde Guerre mondiale.
Tu me donnes envie là, toi aussi, c'est terrible.
ça retrace plein de trucs, c'est extrêmement intéressant. Et aussi pour les plus cinéphiles, on redécouvre l'histoire du cinéma japonais avec des clins d'œil sur les tendances des différentes décennies. J'ai peut-être pas précisé l'époque à laquelle ça se passe. Donc l'actrice, au moment de l'interview, elle a à peu près 70 ans, on ne sait pas vraiment, mais on imagine un peu. Donc les périodes où elle a tourné les films, ça va être ça, les années 40, les années 50.
Donc ces 70 ans, c'était à l'époque contemporain, donc elle avait 70 ans à peu près en 2000. Quoi.
Donc quand
on revoit toute
films,
l'après-guerre,
être...
de l'autour de la guerre et puis l'après-guerre du Japon. Oh là là, oui. Attends, il faut que je le trouve tout de suite là.
Et donc le film, il va mélanger tout ça avec une réelle maîtrise, il y a une vraie virtuosité. C'est par exemple si a priori il y a aucun rapport entre une princesse médiévale qui fuit sur un cheval et une jeune fille somme toute classique qui fait du vélo dans les champs, dans la construction ou la mise en scène de Satoshi Kon, ça a un sens. On va passer de cette scène à du cheval au vélo en un instant et c'est pas anodin. Il y a une raison derrière ça. Si tant est qu'on reste concentré en regardant le film, en fait, c'est vraiment pas quelque chose qu'on met en fond et auquel on fait vraiment pas gaffe.
Ouais, faut pas le regarder avec le téléphone portable dans la main ou en cuisinant en même temps, quoi.
Ouais, c'est ça, moi. Moi, pour l'anecdote, quand je l'ai regardé la première fois, il était tard. J'étais fatigué, c'était un soir, j'ai regardé ça parce qu'on m'avait dit, on me l'avait conseillé. Et je me suis à moitié endormi au milieu, mais absolument pas parce qu'il est soporifique, c'est juste que j'étais complètement crevé. Mais à la fin, j'ai remarqué que j'avais pas tout compris et que j'avais loupé quelque chose. Et le lendemain, je l'ai re-regardé. Je fais strictement jamais ça. Ça ne m'arrive jamais d'aller revoir un film juste après l'avoir vu. Mais comment dire, ce film m'a appelé à le revoir en fait pour mieux comprendre ce qui s'était passé, ce que j'avais vu. Et en effet, c'est quand on s'y penche vraiment, c'est une vraie claque cinématographique qu'on prend. C'est pas c'est pas un film d'animation comme on pourrait le caricaturer. Alors sans être méchant, mais c'est pas un manga quoi.
Je comprends. C'est un vrai film, c'est pas juste un film d'animation, c'est un film tout court.
Mais ouais, même si l'animation japonaise permet pas mal de fantaisie, si on repense évidemment à Miyazaki, avec des monstres gentils, plein de trucs comme ça, c'est permis, des univers totalement loufoques, c'est permis par la fantaisie. Ici, ça aurait pu être un film tourné en réel, je sais pas comment on dit.
Non mais je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire. C'est pas juste un film d'animation. Les films d'animation, c'est toujours un petit peu particulier avec de la fantasy. Là, tu dis, ça pourrait être juste un film tout court, quoi.
Voilà. Et comme je le répète, c'est toute la mise en scène, le travail cinématographique. En fait, un vrai cinéphile devrait prendre il devrait prendre un kiff absolu, quoi. Voilà.
D'accord. Écoute, c'est marrant parce que je suis quand même assez fan de Japon et j'avais pas entendu parler de ce film-là. Et pourtant,
Satoshi Kon, il a réalisé quelques films qui sont tous reconnus comme étant bons. Par exemple, Perfect Blue.
Perfect Blue était énormissime.
Voilà, Perfect Blue ou un autre Tokyo Godfather si vous connaissez. Perfect Blue en fait. Ça ressemble beaucoup à Millennium Actress. Là où Perfect Blue c'était peut-être pas horrifique, mais dans un univers.
C'était assez dérangeant, quoi.
C'est oppressant, dérangeant. Millennium Actress, ça va être une sorte de mélodrame. C'est plus romantique.
Voilà.
Mais c'est dans l'idée. La construction, c'est à peu près la même. Et vu que ça arrivait après, on va dire que c'est un peu plus mûri, même beaucoup plus. Le travail est plus accompli.
D'accord. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup Thomas. Ça a l'air tout à fait intéressant là, tous ces trucs dont vous avez parlé. Ça me semble être une combinaison assez parfaite. Donc on rappelle ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc Diablo 3, un jeu vidéo que je recommanderais à tout le monde. Giant Days, un comic également pour tout le monde. Et Millennium Actress, un film d'animation qui est lui aussi pour tout le monde. Donc voilà, là vous avez de quoi faire si vous êtes un petit peu déprimé ce week-end. Vous pouvez vous occuper et vous changer les idées. Et avant de se quitter pour cet épisode, je vais bien sûr, comme toujours, demander à mes deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur Internet, à commencer par Timothée.
Alors, moi, on peut me retrouver donc sur mon Twitter @abrutim, Instagram pareil, sinon sur une chaîne YouTube Too Many Books où je parle essentiellement de comics et de romans avec Audrey, et après, la grosse et énorme team de Geekink sur la chaîne Twitch, Twitch/Geekink. Donc voilà, je suis partout sur l'internet.
C'est très bien. Et toi, Thomas, est-ce que tu fais, j'ai failli dire Tima ou Tommy, je sais pas. Thomas, pardon. Est-ce que tu fais des trucs sur Internet?
Ça tombe bien parce que moi aussi, je sais pas prononcer mon compte Twitter. Alors c'est peut-être @tuto, je sais pas comment.
Mais d'où ça vient? J'ai toujours voulu te demander ça d'ailleurs.
Alors, en fait, l'histoire est complètement ridicule. J'ai voulu un jour m'inscrire sur un site lambda pour je sais même plus quoi ça date. Et évidemment, j'ai essayé de t'appeler Toto parce que bon.
Comme toujours, oui, Toto. Okay.
Voilà, c'était déjà pris, évidemment. Alors, j'ai rajouté un O, c'était encore pris, et j'ai rajouté un W, et là, c'était plus pris. Donc, voilà.
Et t'arrives à t'en souvenir.
Oui, au final, il n'y a que 6 lettres.
Mais oui, c'est pas si compliqué, en fait. Et c'est tellement bizarre que moi, je m'en souviens également sur Twitter.
Voilà.
D'accord.
Du coup, ça ressemble à quelque chose de marrant, donc je l'ai gardé. Donc, @Tuto sur Twitter, je poste plus beaucoup dernièrement, je retweet pas mal de trucs sur les jeux vidéo et les chats.
Écoute, ça me paraît être une combinaison absolument appropriée pour l'internet.
Et pourtant, je n'ai pas des millions de followers, je ne comprends pas.
Il faut persévérer, c'est ça le secret.
Voilà.
Très bien, bah merci à toi et merci à Timo. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr avec d'autres émissions comme par exemple le rendez-vous tech où on parle d'actu tech toutes les deux semaines ou le rendez-vous jeu où on parle d'actu jeux vidéo toutes les deux semaines également. Si vous avez besoin d'un endroit simple et pratique en podcast pour suivre tout ça, et ben voilà, vous êtes servi. Et puis bah nous, on se retrouve évidemment dans deux semaines pour un nouvel épisode de cette session qui, ma foi, commence plutôt très bien. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Ciao à tous.
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.